RCF.
La Bible a plusieurs voix. Vous entendrez aujourd'hui les voix de
Marie-Pierre Desfossés,
Jean-Luc Autrette,
Malou Lebars, et merci à Guilhem Thiénot qui nous accompagne à la technique. Bonjour à tous, bienvenue à la table de la parole avec nous. Aujourd'hui, nous allons prendre un passage de l'évangile de Saint Jean au chapitre 3 et nous le prenons en écho, en résonance avec un texte que nous avons lu ensemble dans une précédente émission et qui faisait partie du livre des Nombres. C'était l'épisode appelé donc Moïse et le serpent de bronze ou le serpent d'airain. Et donc nous prenons aujourd'hui ce passage du chapitre 3 de l'évangile de Saint Jean parce que justement il y a cette évocation du serpent d'airain dressé dans le désert par Moïse pour que le peuple ne meure pas des morsures, des brûlants, des morsures des serpents. Alors je vous propose d'entendre ce passage au chapitre 3 donc de l'évangile de Saint Jean à partir du verset 11 jusqu'au verset 21.
En vérité, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et pourtant, vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous dis les choses de la terre, comment croiriez-vous si je vous disais les choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Qui croit en lui n'est pas jugé. Qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré l'obscurité à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient pas à la lumière de crainte que ses œuvres ne soient démasquées. Celui qui fait la vérité vient à la lumière pour que ses œuvres soient manifestées, elles qui ont été accomplies en Dieu.
Voilà donc ce passage très dense, encore une fois, de Saint Jean. Donc, et il fait partie du chapitre 3 et le chapitre 3 commence par l'intervention d'un dénommé Nicodème qui vient de nuit voir Jésus. Alors, dans l'évangile de Saint Jean en particulier, la nuit, c'est le temps des ténèbres, de tout ce qui peut faire... obstacle à la vérité, hein, donc à la lumière. Alors Nicodème, lui, il arrive avec on pourrait dire un peu sa suffisance, parce que il dit nous savons que, il prétend savoir que Jésus vient de la part de Dieu à cause de tous les signes qu'il a opérés. Et le problème, c'est que Jésus va lui faire entendre, bah, que tout ce qui concerne le signe, c'est pas de l'ordre du, c'est pas du domaine du savoir, hein, c'est autre chose. Le signe, ça nécessite, on pourrait dire, une adhésion de la personne qui le perçoit, qui le reçoit. C'est, voilà. Donc, ben, Jésus va l'orienter, différemment et il va lui dire, tu ne sais pas grand chose finalement. L'esprit, le souffle divin, tu ne sais ni d'où il vient ni où il va, mais tu entends sa voix. Et puis il va aller jusqu'à lui dire, ben, si quelqu'un n'est pas engendré de nouveau ou engendré d'en haut, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, être engendré de nouveau, être engendré d'en haut? Voilà la question, hein, qui est assez incompréhensible pour Nicodème lui-même, hein, parce que voilà, il va dire, mais voilà, est-ce qu'on peut rentrer dans le sein de sa mère une fois qu'on est vieux? Alors, vous savez que le mot Nicodème a donné le mot nigo en français, parce qu'au Moyen-Âge, on pensait qu'il posait une question idiote, et donc, voilà. Mais c'est pas si idiot que ça, finalement. Voilà. Donc, et Jésus va dire, bah, si quelqu'un n'est pas engendré à partir de l'eau et de l'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc, il y a la logique de la chair d'un côté, chez Saint Jean, et il y a la logique de l'autre, de l'eau, de l'esprit, qui est la logique qui conduit à la vie, mais la vie en Dieu, la vie qui demeure. Voilà. C'était peut-être important de rappeler ça au début, parce que ça nous concerne nous aussi. Qu'est-ce qui fait qu'on peut dire que nous sommes nés d'en haut? Parce que d'abord, nous sommes nés d'en bas. Ça veut dire quoi, être né d'en bas?
C'est justement être de chair, un homme de chair.
Oui, mais ça veut dire avoir un état civil. Nous sommes nés de papa, oui, et maman. Oui, nous, oui, avons, c'est ça,
nous avons une ascendance. On peut,
voilà.
D'avoir une origine aussi.
Nous habitons à Brest ou ailleurs. Mmh. Et puis voilà, c'est tout ça. Hein, donc, donc on pourrait dire que c'est quelque chose qui nous concerne tous. Et Jésus vient dire, mais il y a une vie qui est plus originaire encore que celle-là, que notre natif.
Oui.
Donc, il est venu nous révéler cela. Hein. Donc, notre naissance à l'état civil, c'est la première à notre regard, mais celle que nous éprouvons en premier, mais ce n'est pas la plus originaire. Et notre première naissance, elle ne peut conduire que au désir de mort, à la mort, hein, donc voilà, la naissance originaire est ce qui nous mène à la vie, nous allons vers cette naissance. Alors justement, dans ce passage-là qui nous concerne aujourd'hui, Jésus a un ton un peu solennel quand même, hein, il dit « Amen, Amen, je te dis que nous parlons de ce que nous connaissons, nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, vous ne recevez pas notre témoignage ». Si je vous dis les choses terrestres que vous ne croyez pas, comment croirez-vous si je vous disais les choses célestes? Alors là, peut-être ça mérite qu'on s'y arrête un petit peu quand même, non?
Oui. Ce qui est curieux, c'est que donc au verset 11, il emploie le pluriel, il dit « nous parlons de ce que nous connaissons ».
Oui. Qui est ce « nous » ?
Qui est ce « nous » effectivement? Est-ce que d'ores et déjà, c'est pas cette dimension qu'on va voir apparaître au fil de l'évangile de Jean, cette dimension du corps du Christ, peut-être ce « nous » qui englobe déjà en fait tous ceux qui vont se rassembler autour du Christ?
Et qui peut-être justement dans ce passage, dans les versets qui précèdent, où il est question de Nicodème, s'oppose au « nous » des pharisiens, qui est un nous de connaissance qui s'appuie sur le savoir.
C'est dans un autre registre, effectivement. Oui.
Et ici, il est question de recevoir un témoignage, puisque Jésus dit, donc il parle à Nicodème, mais par-delà Nicodème, à tous les pharisiens, vous ne recevez pas notre témoignage.
Donc il faut d'abord entendre. La première chose, c'est d'entendre. Pour qu'il y ait une adhésion aussi,
oui,
à ce qui est dit.
Voilà, et puis quand on a le mot témoignage, c'est quand même un terme très fort.
Oui,
ça
c'est
aussi.
Très fort, oui, parce que c'est un signe vivant en quelque sorte, c'est-à-dire que c'est l'être qui va s'exprimer dans le témoignage, et non, comme vous disiez tout à l'heure, Malou, un savoir intellectuel. Là, on va être dans quelque chose qui va être du domaine de l'être, en fait.
On est engagé profondément, hein, c'est peut-être cela. Et donc, lorsque, au verset 12, Jésus dit, si je vous dis les choses terrestres que vous ne croyez pas, comment croirez-vous si je vous disais les choses célestes? Alors, c'est quoi le ciel? Est-ce que c'est que le ciel? Est-ce que c'est un lieu lointain, dans les nuages, où nous irons, parce que c'était un peu la croyance populaire quand même, après notre mort biologique, hein, donc c'est pas tout à fait ça, hein, que, dans les évangiles, ce ciel-là, il est souvent appelé le royaume de Dieu.
Oui.
Ou le royaume des cieux.
Ou les royaumes des cieux, pour ne pas prononcer le mot Dieu.
Oui.
Et en fait, c'est peut-être là, effectivement, où on est dans cette vie dont on parlait tout à l'heure, avec un grand V, qui est cette vie qui est du domaine du pneuma, du souffle, en fait.
Oui, c'est-à-dire que dans les lieux habituels où nous vivons notre vie terrestre, il y a place pour du ciel. C'est-à-dire, il y a place pour des germes de divin, on pourrait dire ça comme ça. Hein, donc, donc le ciel, c'est une figure ici qui dit le fondement de tout cela. Hein, c'est naître d'en haut, naître du ciel. Sur terre, il y a des germes de ciel parce qu'il y a des germes de la parole divine que nous pouvons accueillir. Et qui peuvent s'incarner en nous. Hein, voilà, finalement, donc, on pourrait dire le ciel, il est au milieu de nous, mais peut-être souvent à l'état caché, hein, à l'état...
Endormi.
Oui, voilà.
Il faut le réveiller.
En tout cas, oui, en attente d'être réveillé ou d'être dévoilé. Alors, on pourrait comprendre comme ça le verset 12. Jésus dit, si vous ne pouvez pas entendre ou discerner qu'il y a des germes de ciel, des éclats de ciel sur terre, comment pourriez-vous entendre Jésus parler de l'origine, de son origine, des choses, de parler d'où il vient, du Père, voilà. Donc, donc peut-être aussi que on pourrait dire que nous ne pouvons connaître que ce que nous avons à reconnaître, parce que c'est déjà là. Mais nous ne le savions pas. Nous ne le savions pas. Et donc, c'est différent d'un savoir, parce que dans ce passage de Saint Jean, c'est toujours l'opposition entre le savoir, la preuve, et tout le reste, le signe, le témoignage, l'engagement. Hein, donc, le savoir reste extérieur, et la connaissance implique un engagement. Alors, je continue au verset 13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et de même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alors voilà, donc personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Oui, voilà. Jésus se nommera lui-même très souvent comme l'envoyé du Père, hein, celui qui fait la jonction entre le ciel et la terre, hein, celui qui fait que désormais les cieux sont ouverts. Voilà. Alors ici, donc, on a cette fameuse expression... De même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là? Il faut que le Fils de l'homme soit élevé comme... Alors, on peut évoquer peut-être à nouveau un peu l'histoire du serpent. Comme Moïse a élevé le serpent de bronze, mais pourquoi? Vous vous souvenez?
Justement pour que le peuple, pour qu'il soit signe déjà pour le peuple, et que le peuple soit capable de lever la nuque. On a dit que c'était un peuple à la nuque raide, et justement ce signe leur est donné pour qu'ils se tournent aussi vers le divin, et qu'il soit capable de relever la nuque.
Oui, mais donc nous avons vu dans l'épisode des Nombres, du livre des Nombres, chapitre 21, que justement le Seigneur avait envoyé les brûlants, les serpents pour mordre le peuple et parce que le peuple il ne vivait plus que au ras des champs, au ras des pâquerettes,
oui,
on pourrait dire
dans la poussière en fait,
la vie du monde. Il avait oublié celui qui avait donné la vie, et donc il y a toute cette part là du peuple qui est morte en quelque sorte, hein, qui celle qui n'attend rien du Seigneur qui donne la vie. Et donc Moïse, à la demande du Seigneur, il a élevé, il a mis sur une hampe, sur une bannière, une statue, en quelque sorte,
une statue,
on pourrait dire ça, un serpent de bronze, un serpent d'airain.
Une sculpture.
Oui, voilà. En tout cas, c'est quelque chose de mort.
Oui.
Le serpent d'airain.
Oui.
Mais il l'avait élevé pour faire signe. C'était en guise de signe.
Oui.
Pour faire signe vers le haut, comme disait Marie-Pierre, hein, que bah oui, voilà, s'ils veulent vivre, il fallait qu'ils regardent vers ce signe-là, le signe de la vie. Et c'est vrai qu'en fait, ils n'étaient pas dispensés d'être mordus par le serpent.
Non.
Ça ne dispensait pas de recevoir la morsure, mais cette morsure-là, elle n'entraînait pas
la mort
au sens de l'avoir à mourir habituellement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une vie qui pouvait traverser la mort. Alors, je vous propose une petite interruption musicale, mais nous reviendrons sur ces fameux versets 14 et 15. Nous lisons au chapitre 3 de l'Évangile selon saint Jean, donc le passage qui va du verset 11 au verset 21, et nous en étions donc au verset 14 où on faisait référence à ce fameux serpent d'airain que Moïse avait élevé dans le désert. Donc, de même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme, hein, on traduit souvent par le Fils de l'homme, soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alors le Fils de l'homme, le Fils de l'humain, c'est quelque chose d'un peu mystérieux toujours, non ?
Oui, c'est en fait le Christ là, en fait, s'associe à l'ensemble de l'humanité en quelque sorte.
Oui.
C'est-à-dire
qu'en fait, quand il est le Fils de l'homme, il représente l'humanité tout entière.
Mmh.
Hein. Et c'est vrai qu'on peut évoquer aussi dans le livre de la Genèse la fameuse phrase « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance ». Ben, c'est le Fils de l'homme qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Hein. Donc voilà. Mmh. Mais en insistant bien sur ici la notion de filiation. Hein. Il est question de fils, c'est-à-dire que si on parle de fils, on parle de père aussi.
On sous-entend le père, oui, forcément.
Et de paternité, hein, mm-hmm. Donc voilà. Alors celui-là, il était évoqué déjà dans le chapitre 1, sous la figure de celui sur qui les anges montaient et descendaient, hein, entre la terre et le ciel. Et il est donc celui qui vient de l'origine et qui est conduit. Le Verbe était à l'origine, au commencement, le Verbe était Dieu. Il est celui qui rend, enfin, je ne sais pas comment dire ça, mais qui rend possible de voir qu'il y a un originaire, hein, et que peut-être nous ne savions pas ou nous ne voyions pas, nous ne discernions pas en tout cas. Et c'est lui qui va montrer quel est l'accomplissement pour l'humanité. Voilà. Et donc, si nous acquiesçons à cette possibilité-là, eh bien, on dit, il faut de même que le Fils de l'humain soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alors ça, c'est beau aussi quand même, parce que ce Fils de l'humain élevé, ça fait allusion à quoi ? À la fameuse croix du Christ, quand même.
C'est la préfiguration de la croix du Christ, oui, bien sûr.
Et donc, nous sommes invités à lever les yeux vers ce Christ en croix aussi, pour échapper à la mort.
Oui.
Pour échapper, non pas à la mort biologique, mais pour échapper à la mort tout court, on va dire ça comme ça. Hein. Donc, alors, c'est pas de la magie non plus. On avait dit que pour le serpent d'airain, c'était pas magique.
Non.
Il s'agissait de voir...
C'était un signe.
C'était un signe.
C'était comme une écriture, on avait dit.
Voilà,
aussi,
comme une écriture, etc. Donc, si le serpent d'airain parlait déjà en quelque sorte au peuple des fils d'Israël, eh bien, combien plus pour nous le Fils de l'humain, le fils de Dieu pendu au bois de la croix, voilà, le crucifié. Et c'est aussi dans l'évangile de Jean que Jésus dit « Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les humains. » C'est très beau ça, hein. Donc, alors, afin que celui qui croit en lui ait la vie éternelle. Alors, du coup, le fait de croire ici, ça consiste en quoi ? C'est de se tourner vers
se
ça.
Se tourner vers lui, en fait. Oui. Élever le regard aussi vers... tourner en tout cas les regards vers celui qui est sur la croix.
Oui. Alors, c'est vrai qu'on pourrait... dans la vie de tous les jours, détourner le regard et ne pas voir celui-là, celui qui a donné sa vie jusqu'à mourir sur la croix. C'est très facile de détourner le regard. Qu'est-ce que vous en pensez ? Combien de fois dans nos vies ou dans la vie du monde voilà. Et même ce signe-là de la croix, il peut ne pas être très bien reçu non plus quand même.
Finalement, à la résurrection, c'est aussi le centurion romain qui, le premier, aura reconnu en lui le Fils de Dieu.
Alors, vous évoquez donc un épisode où il y a, au moment de la mort de Jésus sur la croix, il y a donc le centurion qui est là.
Et au pied de la croix.
Celui-là a vraiment été le Fils de Dieu. Mais c'est parce qu'en fait, son mode de mourir, c'est parce que sa vie, elle est entièrement donnée. Donc son mode de mourir ne peut être que de traverser la mort, puisque sa vie est entièrement donnée. Ce qui est entièrement donné ne peut pas mourir. Voilà. Ça, pour nous, ça peut aussi... La façon dont il dépose sa vie mortelle montre qu'il est animé d'une vie qui transcende...
Qui dépasse l'humain.
Voilà. Donc, alors, justement, parce que quand on dit cette expression donc, ici, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, j'entends aussi que le verbe croire, là, c'est simplement d'acquiescer, de consentir...
Oui.
À être élevé par lui,
En tout cas, c'est différent de ce qu'on avait pu rencontrer dans le texte du serpent d'airain, où il était question de regarder tout simplement. Là, on est invité à croire, effectivement. Donc la démarche est beaucoup plus intense, je dirais, beaucoup plus... Enfin, elle engage notre être aussi, en fait.
Oui. On est invité à adhérer, en tout cas, à celui qui est monté au ciel.
Exactement.
Oui, mais le serpent d'airain, effectivement, faisait signe, déjà. Donc, nous, les chrétiens, nous pouvons voir dans le serpent d'airain la figure, déjà, du Christ. Mais le Christ accomplit accompli ce signe parce que il est l'incarnation même de ce qui donne la vie. Donc, oui.
Tout à fait. Comme vous disiez dans la précédente émission, Manou, effectivement, le serpent des reins, c'est un signe, mais il est mort, en fait, en quelque sorte. Hein, ça reste qu'une écriture, une sculpture. Là, effectivement, c'est un être vivant qui est pendu au bois de la croix.
Et donc, le fait de croire, c'est de se laisser entraîner à être élevé à la suite du Fils. C'est quelque chose de très beau, parce que c'est lui qui fait l'unité en lui de tous ceux qui peuvent se tourner vers lui. Hein, donc, et on pourrait presque dire même plutôt de cette part de nous en mesure de recevoir son témoignage et de se tourner vers lui. Parce que c'est pas tout notre être qui peut-être est en mesure, parce qu'il y a aussi de la ténèbre.
Un petit peu, oui.
Un petit peu de ténèbre dans nos vies. Alors, verset 16, donc on a Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le Fils, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé le Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas a déjà été jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ceci est le jugement. La lumière est venue dans le monde et les humains ont aimé les ténèbres plus que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Alors voilà, ce fameux jugement-là, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas imaginer une sorte de pesée des âmes, là, qui nous vient un peu d'une tradition peut-être plus du côté des représentations du patrimoine, hein, mais bon. Le jugement ou la perte, je sais pas comment dire, c'est concomitant au fait de croire. Soit on accepte d'être élevé par celui qui rassemble tout ce qui est à lui et tout ce qui est du côté de la lumière, soit on accepte, soit de toute façon on n'accepte pas et on est jugé. C'est presque de l'auto-jugement.
Et en chacun de nous, il y a quand même cette part de ténèbres. Ça nous est rappelé après. Le monde et les humains ont aimé les ténèbres plus que la lumière.
Oui.
C'est de nous rappeler que notre condition humaine fait que nous avons toujours aussi cette part d'ombre en nous.
Oui, voilà. Alors donc, verset 20, c'est « Quiconque commet le mal, déteste la lumière, ne vient pas à la lumière afin que ses œuvres ne soient pas dévoilées. Par contre, celui qui fait la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont œuvrées en Dieu, parce qu'elles sont accomplies en Dieu. » Donc, je trouve que ça, c'est très beau parce que la vérité, c'est comme un processus, un dévoilement, un surgissement, faire la vérité. J'aime bien cette expression-là, faire la vérité.
Et puis, ce n'est pas nous qui la ferons non plus, finalement. Ça n'est pas avec nos propres forces.
Oui.
Mais c'est aussi accepter que ça soit fait par, justement, le divin, par quelqu'un d'autre.
Oui, mais le mensonge, ici on nous le dit, le mensonge ne supporte pas la lumière, la dissimulation. Hein. Donc justement, ici, l'expression « faire la vérité », c'est quelque chose qui nous demande notre adhésion, faire la vérité. Faire la vérité pour que la lumière vienne dans nos vies. Alors je trouve que cette idée de lumière qu'on trouve tout le temps dans l'évangile de Jean, elle est extraordinaire aussi quand même. Hein. C'est accueillir la lumière, accueillir la parole qui fait la lumière dans nos vies. Et c'est ça qui nous sauve. Alors voilà, merci d'avoir été avec nous pour lire tout ce passage-là, depuis le serpent des reins jusqu'à ce signe de la croix élevé et qui nous montre qu'avec le Christ, nous sommes entraînés vers lui, avec lui vers le Père. Merci d'avoir été avec nous sur RCF.